Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma. Avec Charlotte Lipinska de Vogue, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Pierrot Pierre Murat de Télérama.fr et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série que nous écoutons tous et tout le samedi soir à 20h sur notre chaîne. On parle ce soir du Maigret de Patrice Leconte et du Batman de Matt Reeves, d'Un autre monde de Stéphane Brisé, de Ils sont vivants de Jérémy El Khaïm, via le Belfast de Kenneth Branagh et le Clermont-Ferrand d'Alain Giraudy. Dans le courrier de la semaine, à propos d'enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti, Ravel Canillas, qui est projectionniste de cinéma itinérant dans le Vaucluse, trouve le film brouillon entre mauvais documentaire et fiction non maîtrisée à éviter pour Monsieur Best. Bon casting, mais réalisation catastrophique, bande sonore assourdissante, éclairage absent, format docu inutile, bref, un gâchis d'un bon sujet. Arnaud Sanquer juge au contraire que Thierry de Peretti ose prendre des risques. La facilité aurait été de faire dans le spectaculaire. Lui choisit de privilégier une histoire d'amitié à un chaos politique. Roche Dizem est énorme. Gisèle Mornac ajoute, Jérôme Garcin a dit à la fin, je ne sais pas où est la vérité. Et c'est là tout le talent de ce film et qui fait le pari de l'intelligence du spectateur et nous laisse nous faire notre propre idée, une réussite. Et puis, The Souvenir de Jeanne Hogg a moins séduit nos auditeurs que Michel Simon. Pour Thierry d'Anglais, c'est le souvenir, mais de l'ennui. Scénario bancal, mise en scène poussive et image médiocre, 2 heures interminables. Et puis Éric Olivier de Paris, ce film est aussi beau plastiquement que d'un ennui sidérant. J'ai préféré m'éviter la deuxième partie de ce cauchemar. Enfin, à propos de l'amour, c'est mieux que la vie, plein de courriels courroucés, Vanessa Martin, extrêmement choquée par les propos de Camille Nevers, elle a le droit de pas aimer le film, c'est également mon cas, mais ça n'est pas une raison de traiter de con un metteur en scène qui a quand même 50 films au compteur. Ce n'est plus de la critique, ajoute Roger Kenmel de Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle. Lelouch aurait droit à des excuses pour cet écart accidentel. Là, le nombre de cinéastes qui pourraient demander des excuses après au masque et la plume. Jean-Luc Lubert, lui, écoute le masque en boulangeant. Je suis boulanger, je pétris et façonne à la main en écoutant le masque et la plume. Et Claude Lelouch, je l'aime. Il est incroyablement humain, voire désespérément humain. Alors, dommage pour Camille et Xavier qui sont passés totalement à côté, et vive Eva Bétan qui porte l'émotion et l'amour à son firmament. Quant à Hubert Tassin, il était triste d'entendre les sarcasmes du masque. Ce film de Lelouch est un conte avec des moments de grâce. Vous ne seriez donc plus capable au masque d'entrer dans un conte. Je ne veux pas le croire et je suis sûr que vous serez retrouvés dans l'avenir, vos yeux et votre cœur d'enfant.
Xavier. Non, je fais très attention à ce que ça n'arrive pas, au contraire.
Et revoici pour un 9e vol plané de chauve-souris, The Batman, le Batman de Matt Reeves, qui succède notamment, vous le savez, à Tim Burton, Joel Schumacher ou Christopher Nolan, avec cette fois Robert Pattinson dans le rôle titre, Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano très Sphinx, Colin Farrell très Pingouin, et même John Turturro, 3 heures montre en main pour suivre Bruce Wayne, alias Batman, dans son combat contre la corruption qui sévit à Gotham City, tout cela en pleine campagne pour l'élection du nouveau maire et pour élucider bien sûr les crimes du Sphinx. Film anxiogène, écrit Jean-Marc cette semaine dans les Inrocs, où retentissent les plus grands troubles de l'époque. Faillite démocratique, alerte terroriste, hantise de la catastrophe ou gronde l'imminence d'un désastre. J'ai même cru dans ton papier que tu allais évoquer la guerre en Ukraine.
Non, mais j'ai pensé très fortement, et je trouve que le film résonne avec ça, évidemment. Le film fait penser, il a été fait vraiment à un moment où on ne pouvait pas l'anticiper, mais il y a effectivement l'angoisse de la catastrophe, d'un désastre, la guerre, c'est un monde qui se disloque, et je trouve que le film produit des visions très fortes là-dessus. Ce qui est troublant dans le film, c'est que dans la relation qu'on entretient au film, le moment où on le voit n'est pas le moment de plus forte plénitude. C'est-à-dire que c'est un film qui est presque éprouvant à voir, il est très très long, il est assez répétitif, il produit une forme d'exténuation, on en sort presque épuisé. Mais presque comme le héros, quoi. On n'a jamais vu un Batman aussi pantelant. Il est sans arrêt blessé, il est souffrant. Et cette espèce de chemin de croix, le film travaille presque à le produire chez son spectateur. Et en même temps qu'il nous épuise, il nous remplit de quelque chose qui reste très longtemps après la projection. C'est-à-dire des images comme ça sur un mode un peu oraculaire d'un monde de chaos dans lequel nous sommes plongés. Et je trouve que plastiquement, le film est assez inspiré. Il y a vraiment, c'est un film très sombre dans ce qu'il dit, mais aussi très sombre plastiquement.
C'est-à-dire que les plans. Beaucoup de films dont on va parler ce soir.
Oui, hein. Bien sûr. Mais celui-là, il est aussi plastiquement, c'est-à-dire qu'il y a carrément une scène d'action qui est dans le noir quasi complet, à juste strié par des balles comme ça qui produisent des trajectoires lumineuses. C'est vraiment très très beau. Et puis surtout, enfin pas surtout d'ailleurs, mais en plus, je trouve que de tous les Batman qu'on a vus, Pattinson, pour moi, celui qui produit l'incarnation la plus convaincante. Jamais on a vu un Batman aussi torturé et introspectif. Il est presque tout le temps Batman, c'est-à-dire les moments où il est à visage découvert en Bruce Wayne sont vraiment assez rares dans le film. Donc il doit jouer juste avec ses yeux, avec un masque sur le visage, et cette espèce de mâchoire dont la perfection angulaire, moi, ne cesse de me fasciner. C'est-à-dire que je pourrais regarder très longtemps la mâchoire de Robert Pattinson. Je trouve que c'est son plus grand, sa plus grande force d'acteur tient quasiment dans sa mâchoire. Et il est d'une intensité et d'une force assez inouïe.
Charlotte.
Oui, mais c'est vrai que je rejoins Jean-Marc parce que il est fascinant, Pattinson. Il est quand même mono-expression du début à la fin, mono-intonation presque, puisqu'il chuchote quasiment, ou en tout cas, il parle extrêmement calmement avec une sorte d'octave en dessous. Et malgré tout, il a un charisme dingue. Donc, c'est sa mâchoire, c'est son menton. Et effectivement, il produit un Batman qui est reclus, névrosé, limite asocial, totalement fascinant. Alors, c'est vrai que le film est très noir, il y a une sorte de micro-climat à Gotham City, hein, il fait nuit tout le temps, il pleut tout le temps, donc c'est pas une destination très paradisiaque, mais on part dans ce voyage de 3 heures, alors long certes, mais il y a quand même une sorte de jeu de piste un peu macabre, puisque le tueur mystérieux contre qui il se bat laisse des petits indices sur chacun de ses méfaits. C'est des indices, des devinettes, alors c'est pas ambiance carambar, hein, ça fait penser plutôt à Seven, et on passe comme ça d'un cadavre à l'autre, mais c'est comme si Batman se faisait baladé en fait tout au long du film, parce que ce tueur mystérieux a toujours un temps d'avance, et donc nous, bah voilà, on part avec lui. Alors l'aspect assez long du film, je rejoins complètement Jean-Marc, est un peu éprouvant pour le spectateur au bout d'un moment, parce qu'on est sur le même rythme,
d'autant que le suspense n'est pas non plus capital.
Il n'y en a pas, mais c'est un rythme un peu lancinant, un peu stressant, avec une musique que je trouve assez admirable, même si elle est très très présente dans le film, donc ça manque peut-être un peu de relief sur le rythme, mais le film est sublime plastiquement, c'est très très beau. Après, il y a cette petite chose assez bizarre. Alors, vous savez, c'est les coléromanes. Là, je me dis, il y a quand même un problème de traduction, parce qu'on nous parle de cette drogue qui ravage la ville, qui sont des petites gouttes qu'on se met dans les yeux, mais alors voir dans les sous-titres coléromanes, moi, ça me détache un peu du film. Et Paul Dano, flippant comme pas deux, et dément.
Pierre.
Ben moi, j'ai pas été éprouvé du tout pendant 3 heures. J'ai trouvé ça absolument formidable. Je trouve ça. Moi, je suis pas un fan absolu, même si j'avais bien aimé certains films avant de Batman. J'avais lu beaucoup de choses avant même le tournage sur le choix de Robert Pattinson, qui avait été extrêmement critiqué. Ouais. En disant, mais il va pas y arriver, c'est nul, pourquoi l'a-t-on choisi? Et je trouve qu'il est en effet tout à fait remarquable. Alors, la mâchoire, oui, certes, mais il y a les yeux. Et puis, il y a surtout cette dégaine qu'il a. Il le joue comme une rockstar déjantée, complètement enfermée dans...
Mais c'est Kurt Cobain.
Oui, c'est Kurt Cobain.
C'est Nirvana qui revient en
Kurt Cobain. Et puisqu'il y a Nirvana qui revient avec la musique et Schubert en même temps, donc il y a une utilisation très brillante de la musique classique et de... Bref, il le joue comme une rockstar enfermée par la culture, par le père, par tout ça. Et il le fait vraiment très très bien. Alors moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que d'abord, c'est un thriller. Tu as raison. C'est-à-dire que il assiste la police et il va, comme dans Fincher, en effet, dans Seven, vers le méchant de l'histoire. Donc moi, je suis plus à mon aise quand Batman devient presque un film noir. Et je trouve que c'est tout à fait remarquable. Et puis alors, il y a quand même des séquences Alors c'est encore une référence, vous allez me dire, mais enfin, à la Coppola, la scène dans l'église, de l'attentat dans l'église, elle est superbe, c'est magnifiquement fait. C'est à la fois le Coppola du Parrain, si on veut, mais aussi dans l'ambiance, le Coppola de Cérémonie secrète. Donc quand Hollywood, qui nous donne vraiment des Marvel absolument nuls, mais fait ça, eh ben il faut y aller, quoi. Vraiment, c'est formidable.
Il ne plus que Xavier.
Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Pierre. Je n'ai pas du tout souffert pendant les trois heures. D'abord, je trouve qu'il y a une construction sérielle à l'intérieur du script qui découpe régulièrement en forme d'épisodes. Et on sait que les comic books sont aussi des formes d'épisodes, des formes de séries comme ça qui se suivent. Donc, je trouve qu'il y a à chaque fois une nervosité qui est redonnée, qui est relancée dans le scénario. Je trouve que Matt Reeves s'affirme comme un des grand metteur en scène de ce cinéma de genre. On avait salué ses précédents Planète des Singes, et je trouve que là, il y a un cran au-dessus, parce que il empoigne vraiment la matière bande dessinée comique dans sa construction de cadre. Il y a très peu de travelling, il y a très peu de panoramique, il y a énormément de plans posés, de plans fixes qu'il travaille, comme vous l'avez dit, avec la lumière, une ampleur, une perspective, une profondeur, qui est vraiment le travail que l'on voit dans les comics de Batman, c'est-à-dire effectivement des angles très durs, une obscurité, mais qu'on va révéler à travers un ray de lumière incident, un détail dans le décor. Et je trouve qu'il y a une construction qui est absolument mais stupéfiante. Il y a une scène, moi, qui m'a, mais alors, esbodie, c'est celle de la poursuite avec le pingouin en voiture. On en a vu mille et cent. Il a une manière de mélanger les regards, le subjectif, l'objectif, le drone, de prendre des perspectives et de monter tout ça de façon absolument mais magistrale. Il réinvente les personnages que l'on croyait connaître, comme le sphinx ou comme le pingouin. Alors, on n'est pas tout à fait au niveau du Danny DeVito de Tim Burton, mais il y a un personnage qui est quand même extrêmement intéressant, et je trouve que c'est trois heures d'un spectacle impressionnant où tout fait sens, la musique, le montage, le découpage, le cadre, l'interprétation de Robert Pattinson. Je ne suis pas comme vous, sa mâchoire me laisse assez indifférent, mais je trouve que sa silhouette et la manière de travailler
la
Batman...
La mâchoire, c'est Charlotte qui est la
Jean-Marc,
mâchoire.
Jean-Marc, fait quand même... Et en même temps, c'est un Batman, effectivement, qui prend des coups, qui a le vertige. La première fois, effectivement, qu'il se retrouve en haut d'une tour, alors que Batman n'a peur de rien, il a peur de tout. Et je trouve que l'humaniser, au lieu de le déshumaniser, comme l'ont fait souvent les réalisateurs ou les scénaristes en empoignant Batman, ça fait un... grand film.
Et il ne faut pas oublier Catwoman, oui, quand même aussi. Hein. Il y a une présence féminine magnifique.
Aussi. Cela dit, de mémoire d'animateur, je crois que je n'ai jamais vu le masque aussi élogieux pour un Batman, puisqu'il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions ici sur ce film? Non. Maigret, le film de Patrice Lecomte qui adapte pour la deuxième fois Simenon, souvenez-vous de Monsieur Hir, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret. Une nuit, dans une rue de Paris, une jeune femme est retrouvée morte, le corps lardé de coups de couteau. Le spectateur l'a vue vivante juste avant le crime. Elle apparaissait très fantomatique, dans une robe blanche, au seuil d'une pièce où on fêtait des fiançailles. Voilà. Alors, le commissaire Maigret, qui ne fume plus, plus la pipe en tout cas, qui ne boit plus, qui broie du noir, mène l'enquête. Il se soucie moins de confondre le coupable que d'identifier la victime, qui lui rappelle sa propre fille, disparue très jeune, elle aussi. La lumière très expressionniste est signée Yves Angelo. Et le film de Lecomte, s'il s'inspire de Simenon, m'a semblé davantage errer dans un Paris nocturne de Modiano, avec un Depardieu dont la mâchoire est très, très, très mélancolique. Un film où apparaît pour la dernière fois le grand comédien André Wilms, qui est mort, je le rappelle, le 9 février dernier. À côté du Batman, c'est un court-métrage, puisqu'il fait à peine 1h30. Xavier.
J'y allais avec des semelles de plomb. Je dois l'avouer, je le confesse, parce que Patrice Lecomte, je crois que depuis une dizaine d'années, on avait un petit peu tiré un trait sur la carrière de ce cinéaste. Gérard Depardieu, on va éviter de parler du Gérard Depardieu politique, on va rester uniquement sur le registre du comédien, m'intéressait quand même de moins en moins. 1h26, ça sentait le film coupé, monté, enfin, voilà, il y avait beaucoup d'indicateurs qui avaient viré au rouge, et je trouve que c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'il a complètement compris Maigret, il a pour moi complètement compris la prose de Simenon, qui est factuelle, la psychologie ne vient pas de voix intérieure, mais elle vient vraiment de l'observation de Maigret, de sa manière comme ça de regarder la reconstitution de Paris, qui aurait pu être muséale, je la trouve extrêmement bien choisie pour dire la lutte des classes à la sortie de la guerre, le monde du cinéma, dans un décor de cinéma, vraiment une scène que je trouve de mise en abyme extrêmement intéressante. Tu l'as dit, expressionniste, les escaliers, parce que s'il ne fume plus,
s'il ne boit plus, les pathologies l'ont rattrapé quand même. Il y a un médecin qui lui dit, bon, il faudrait peut-être arrêter un tout petit peu maintenant, il faut tout arrêter. Et il n'arrête pas, il grimpe des escaliers pour aller jusqu'à la chambre de bonne de cette jeune fille qui a disparu. Et alors, il y a un drame intime que je ne vais
pas
raconter.
Les jeunes femmes sont formidables, je ne les ai pas citées, Jade Labeste et Mélanie Bernier.
Mais tous les seconds rôles sont absolument magnifiques. Aurore Clément est sublime et ça commence, il y a deux scènes avec Elisabeth Bourgine dans le rôle d'une couturière lesbienne. Ça rappelle un tout petit peu le personnage de la photographe dans Quai des Orfèvres qui caressait la cuisse de Suzy Delaire. Et là, dans le deuxième, la manière dont Maigret Depardieu l'interroge dans la deuxième séquence, pareil, on sent qu'il a compris ce qu'elle était, le désir interdit qui est le sien. Et entre les deux, il se passe vraiment quelque chose. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un film au cordeau, remarquablement simonien au bon sens du terme, même si tu as tout à fait raison sur Modiano comme référence, qui ne tombe dans aucun des pièges et qui réussit vraiment à réinventer un personnage qui a été adapté jusqu'au Japon et en Union soviétique. Donc c'est pour vous dire quand même que il a vécu, hein, Maigret. Non, c'est un très très beau film.
Pierre.
Ouais, c'est une très très bonne surprise. J'ai retrouvé une citation de Simenon qui parlait des acteurs qui incarnaient Maigret et il avait dit « Maigret, il ne faut pas qu'il ait l'air intelligent, il n'est pas intelligent mais intuitif, il est bovin, un peu pachydermique, un homme très ordinaire d'une culture moyenne et même au-dessous de la moyenne, mais il renifle les gens ». Et donc, je pense qu'il aurait aimé, parce qu'il aimait beaucoup Michel Simon. Michel Simon l'a joué dans un sketch, d'un vieux
Michel
sketch.
Michel Simon, attention,
Michel
parce que...
Michel Simon.
Non, mais il y a des auditeurs qui m'ont dit Michel Simon.
Ah, Michel Simon n'a pas joué Maigret, mais Michel Simon.
Il pourrait jouer. Michel Simon aurait pu jouer Maigret. Ah,
il aurait pu. Mais enfin, en tout cas, c'est Michel
tout
Simon.
Tout est positif.
Ah non, ça c'est très bon. On peut applaudir.
Michel Simon l'avait joué dans un sketch de Brelandas, et Simenon était fou de Michel Simon. Et là, je trouve que Depardieu a une qualité absolument formidable sur laquelle Maigret repose, et qu'au cinéma, on ne l'avait pas souvent vu comme ça, c'est qu'il écoute. Il sait écouter. Et il y a un seul Maigret pour moi qui était arrivé il y a très très longtemps, c'est Harry Bohr, dans un film de Julien Duvivier qui s'appelle « La tête d'un homme », où toute la mise en scène était faite sur Harry Bohr qui écoutait le coupable, qui le faisait presque avouer, qui avait une complicité avec lui, en l'écoutant et en laissant même s'installer des silences. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans le film de Lecomte. Moi, je me réjouis, parce que depuis quelques années, en effet, Xavier, il n'avait pas donné...
Mais il y a des bons films de Lecomte dont on ne parle jamais. Souvenez-vous de La veuve de Saint-Pierre, qui était un très bon film.
Tandem.
La fille sur le pont.
Ah non, mais...
Tandem, et en plus, la référence à Duvivier n'est peut-être pas tout à fait innocente, puisqu'il a une passion, Patrice Lecomte, pour Panique de Duvivier, et on sent que c'est dans cette ambiance qu'il a voulu reconstituer le film.
Charlotte.
Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça très touchant. C'est-à-dire, c'est un Maigret qui est à la fois introspectif et crépusculaire. Et moi, je trouve que la grande réussite du film, elle tient aussi au fait qu'à travers le regard de Maigret, le film s'intéresse vraiment à cette jeune femme, au parcours de cette jeune femme. C'est-à-dire que la victime n'est pas qu'un prétexte à une enquête. Il nous dit beaucoup aussi sur la condition de ces jeunes filles qui montaient à Paris dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, mais qui se retrouvent dans des situations précaires et difficiles. Et puis, il y a ce petit plaisir de l'enquête un peu vintage, nostalgique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de traces numériques. On fait du porte-à-porte. Et dans ce porte-à-porte, c'est vrai que le regard de Depardieu, qui, comme vous le disiez, observe les gens, sonde les individus bien plus que des faits matériels ou des indices, c'est extrêmement touchant. Et ce film-là, comme Robuste, dont je vous dirai un petit mot en coup de cœur à la fin, on a presque l'impression que c'est des documentaires sur Depardieu. En tout cas, il fait tellement
plus encore,
corps.
Plus robuste encore.
Évidemment, plus robuste à cause du rôle. Mais il y a quand même là une part d'innocence, de naïveté dans le regard de Depardieu que je trouve extrêmement touchante.
Jean-Marc.
Oui, alors, heureusement que Robuste est sorti 8 jours après Maigret, parce que ça nous rappelle à quel point Gérard Depardieu reste un très grand acteur et quelqu'un d'absolument passionnant à regarder. Et autant il est extrêmement vivant et malicieux dans Robuste, là, je trouve qu'il est totalement absent, éteint. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il écoute, mais qu'il pense à autre chose. Enfin, je trouve qu'il ne fait rien. Que Patrice Lecomte lui-même ne fait pas grand-chose et que le film voudrait être crépusculaire, mais il est juste moribond, vraiment dans un état état de fatigue. Autant Batman est un film qui visait à fatiguer le spectateur de manière extrêmement active.
Je vois pas
là, on sent que c'est un film.
Deux, hein,
mais... Alors moi, je trouve au contraire que les films se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que je pense même que dans la manière dont le comte cadre Depardieu par en bas avec son manteau qui ressemble presque à une cape, je pense qu'il y a un fantasme de filmer Maigret comme une sorte de Batman français. mais complètement. Je pense que s'il y a une idée intéressante de mise en scène, c'est un peu ça, d'en faire un justicier crépusculaire et extrêmement fatigué. Sauf que le film lui-même semble extrêmement arthritique et fatigué. Je trouve que c'est filmé de manière poussive et paresseuse tout le temps. Vraiment, le film semble dévitalisé au dernier degré.
Et peut-être que Pattinson jouera un jour Maigret. Hein.
J'espère.
Depardieu en Batman, en revanche, je pense que...
Là,
c'est
j'ai
pas
un
évident.
De là-haut, ça peut faire mal. Hein.
Mais ça, s'y tombe.
Maigret de Patrice Leconte, des réactions peut-être sur ce film. Oui, monsieur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je suis assez étonné, effectivement, par les dithyrambes de 3 des critiques sur 4 sur ce film, parce que ça confirme vraiment que Patrice Leconte n'est pas un grand cinéaste, c'est un euphémisme. Je trouve que c'est d'un ennui absolument total. Alors, on n'est pas passionné par l'intrigue, mais Maigret, quoi, sinon, non plus, n'est pas passionné par l'intrigue, mais on n'est pas passionné non plus par tout le reste, quoi, par l'atmosphère, par le jeu de Depardieu. Moi, j'ai le souvenir d'un Maigret avec Gabin, par exemple, qui était un acteur, quoi, je veux dire, qui donnait une force à son personnage qu'on retrouvait absolument pas là, quoi. J'ai trouvé ça d'un ennui, en plus avec une image extrêmement floue. Voilà, quoi, je trouve que c'est un échec total.
Mais... Merci pour votre sincérité. Vous n'êtes pas de la famille de Jean-Marc Lalanne, non, vous êtes tout à fait indépendant. Un autre monde de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Le couple, je vous le rappelle, il y a 13 ans de son film Mademoiselle Chambon. Après La loi du marché et En guerre, tous deux avec Vincent Lindon, Stéphane Brisé poursuit donc son cinéma politique engagé, mais cette fois du côté des cadres, ce qui est assez original. Philippe Lemel, c'est donc Vincent Lindon, est à la tête d'un site industriel qui fait partie d'un groupe américain très largement bénéficiaire, dont la direction, incarnée pour la France par Marie Drucker, pas commode, hein, lui demande de procéder sans discussion à des licenciements massifs. Mais Lemel, dont la vie privée, il faut dire, est une catastrophe, hein, il se sépare de sa femme jouée justement par Sandrine Kiberlin, Lemel se cabre, il veut protéger ses employés et il finit par se mettre lui-même en danger. Je ne vais rien dévoiler de la toute fin. Juste dire que j'ai trouvé très forte, mais plus que forte, très belle, très grave, la lettre que à la fin il adresse à sa direction et qui est une charge sans appel contre le capitalisme, l'ultralibéralisme, et qui broie, et c'est ça aussi la force de ce film, autant les cadres que les salariés plus subalternes. Oui, j'ai trouvé ça très fort. Quoi que puisse en dire dans quelques instants Jean-Marc Lalanne. Charlotte.
Qu'est-ce que tu en sais?
Oui, mais je te rejoins. Alors,
non, mais j'ai peur maintenant.
Non,
j'ai
non,
peur
mais
de toi.
C'est vrai que Stéphane Brisé n'avait certainement pas anticipé de faire une trilogie, mais c'est extrêmement intéressant de voir les trois films, même si on n'est pas obligé d'avoir vu les deux premiers hein, pour voir celui-là. Parce qu'en adoptant différents points de vue, c'est-à-dire un chômeur longue durée dans La loi du marché, un syndicaliste en guerre, et là, un cadre en pré-burnout, on pourrait dire, ces différents points de vue, évidemment, le constat est sans appel. C'est tout le système qui est complètement voilà. Vicié, où qu'on soit, et c'est un système qui broie les individus à tous les échelons. Ce film-là, je trouve, a une part de fiction un peu plus importante que dans les deux précédents, puisqu'on voit toute la porosité entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.
De même qu'il y a plus, c'est plus écrit et c'était plus improvisé dans les deux.
Dans les deux précédents, même s'il y a encore des comédiens non professionnels aussi dans celui-là. Et moi, ce qui m'a beaucoup ému dans le film, c'est d'une certaine manière l'émotion ravalée du personnage de Vincent Lindon, qui, de par son statut social, ne peut pas se plaindre. C'est-à-dire que ce serait indécent vis-à-vis de ses employés. Et il ne peut pas non plus montrer une quelconque faiblesse ou fragilité par rapport à ses homologues qui ont des responsabilités, parce que à ce niveau-là de responsabilité, on ne se montre pas fragile. Et donc, c'est des questions morales, des questions sur le courage, qui, d'une certaine manière, qui rumine, quoi, qui ne peut pas sortir. Et ça, je trouve ça extrêmement émouvant. Il y a, par exemple, une scène où, on a compris, puisque c'est le début du film, il est en plein divorce avec sa femme, ils vendent leur appartement, un couple d'acheteurs potentiels arrive pour le visiter. Et là, le regard qu'il a sur cet appartement et ce couple où il est vraiment les larmes aux yeux me rappellent beaucoup cette scène absolument magnifique aussi où il vendait un camping-car dans La Loi du Marché. Et c'est pour moi la même émotion, absolument, qu'on vende un objet à quelques centaines d'euros. Et là, cet appartement, c'est toute sa vie là qui s'en va et c'est la même émotion. Et puis, Marie Drucker, je trouve ça, c'est une idée absolument géniale.
À la fin des films. Mais
Oui, mais Marie Drucker incarne là le bras armé, on va dire, des actionnaires. Et c'est vrai que pour nous tous, on entend les actionnaires, c'est toujours une espèce d'entité sur laquelle on ne met pas de visage. Et là, c'est incarné, et c'est incarné par un visage aimé, connu de tous les Français. Et je trouve ça, du coup, d'une perversité de la part de Stéphane Brisé. C'est-à-dire que ça fait froid dans le dos. Ah, et c'est glaçant de l'avoir incarné ces choses-là. Et puis après, Vincent Lindon, je ne vais pas en mettre des tartines, moi je le trouve absolument bouleversant.
Et sa mâchoire.
Et il est absolument dément. Sa mâchoire et son regard.
Jean-Marc.
Oui, je suis partagé sur le film, à la fois ce qui...
C'est mieux que d'habitude sur Brisé.
Oui. Attends, ben, moi j'aimais plutôt le précédent, par exemple. Comme tu l'as dit, il a à la fois trouvé un sujet, il y a trois films, mais aussi une forme qui consiste à, comme ça, à juxtaposer des blocs. Et il sait très bien faire ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de presque, il parle presque trop bien sa langue, et il y a quelque chose d'un peu routinier dans la manière dont il gère ces longues séquences de dialogues qui sont comme des conflits. Et comme chaque scène est une sorte de match, je trouve qu'il parfois il en gagne et parfois il en perd. Et je trouve que tout ce qui concerne la vie privée du personnage de Vincent Lindon sont plutôt des matchs perdus. C'est-à-dire que je trouve que ça construit pas grand-chose, qu'il y a quelque chose qui me semble un peu fabriqué, notamment dans le burn-out du fils de Vincent Lindon. J'y crois pas beaucoup. Je trouve ça un peu appuyé et maladroit. Mais dans les scènes d'affrontement, la manière dont ce personnage est à la fois acculé à la place à la fois de victime et de bourreau, et comme cette place-là est finalement la place la plus douloureuse, je trouve ça assez fort. Et cette vision d'une société où désormais le pouvoir est toujours délocalisé et toujours ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et de vraiment anxiogène dans cette vision. Mais je trouve pas le film malgré tout totalement réussi.
Pierre.
Ah, moi, je le trouve très réussi. Je trouve que c'est le... Pour moi, il me semble que... Qu'est-ce qui m'arrive, d'ailleurs? Je dis pour l'instant, je dis du bien de tous les films. Ah,
non,
ça
mais
me
moi
ressemble
aussi,
pas.
Je suis très inquiet. Non,
mais ça va...
Attendez. J'ai quand même fait une... C'est une bonne soirée,
absolument,
franchement.
Non, mais ça va se gâter.
Il y a des émissions...
Je me rassure moi-même, ça va se gâter un petit peu tout à l'heure.
Mais là, personne n'était inquiet. Hein.
Non, mais moi je m'inquiétais moi-même. Non, moi, je trouve ça vraiment tout à fait remarquable. Alors, c'est vrai, je rejoins Jean-Marc sur le personnage du fils qui me paraît peut-être un poil chargé.
Pardon, mais c'est pas le sujet du film.
C'est pas
du
le sujet, mais attendez, il aurait pu s'en passer. Tout
vous
le reste.
Pédaillez un peu là quand même, non,
mais
franchement.
Mais tout le reste.
Mais non, parce que l'intérêt, c'est que ce qu'il fait craquer, c'est un élément extérieur. C'est même pas lui-même qui craque, c'est sa famille qui craque pour
oui,
lui.
Oui, je sais bien, mais déjà, il y avait la femme, en plus, les scènes entre les scènes de rupture et ensuite de ce qui se passe entre eux sont tout à fait formidables. Mais évidemment, tout ça est. Enfin, je veux dire que c'est un film qui rejoint la formule célèbre de Renoir, chacun a ses raisons. C'est ça qu'il nous montre, c'est-à-dire que Vincent Lindon, et le personnage de Vincent Lindon, est absolument coincé. Il est amené à commettre des choses, il est amené à mentir alors qu'il sait qu'il ment. Il est le plus honnête possible et il ne peut pas faire autrement. Il se défend, il est mal jugé par tout le monde, il est perdant aux yeux de tous et y compris à ses yeux, à lui. Et là, la façon dont Stéphane Brisé filme ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est, à mon avis, le plus beau des trois de cette trilogie. Je trouve que c'est d'une intensité et d'une force
absolument
incroyable.
Et encore une fois, cette lettre de la fin, moi j'ai envie de la recopier. Xavier.
Il y a un côté Batman incontestable.
Oui.
Ah bah attends, mais c'est qu'une évidence. Je vois que tout le monde a tourné
autour du sujet. Et quand Vincent Lindon saute,
c'est Batman dans le cinéma social. Non, ceci mis à part, c'est drôle que tu rappelles ma nouvelle Chambon que j'avais démontée ici au masque.
Oui. Qui était tiré d'un très beau roman d'Éric Holder.
Il n'avait pas aimé. Et Stéphane Brisé ne m'en a jamais voulu. Il a eu cette gentillesse, courtoisie de continuer à m'inviter. Et je me suis réconcilié. Et j'aime énormément ce film, vraiment. Et pourtant, on partait de loin parce que personnellement, me faire plus sur la rédemption d'un patron qui gagne 100 fois plus que les gens qu'il est en train de virer pour être sûr que les actionnaires soient bien servis, il faut la montagne, pour moi, elle est dure à gravir. Et je trouve le film, mais d'une intelligence sans nom. Effectivement, c'est une trilogie, mais je trouve que contrairement à toi, Jean-Marc, je trouve qu'il ne se répète pas. Il réinvente, il affine, il épure encore son principe d'écriture. La plupart des séquences ont déjà débuté lorsqu'il commence à les filmer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une espèce d'introduction qu'on n'a pas eue quand il dit « Mais c'est pas possible, personne n'a rien vu quand une employée a été blessée sur ce lieu de travail, accident qu'on n'a pas vu. » Il a une manière de ramener dans le dialogue et dans les séquences, effectivement, des choses qu'il n'a pas voulu montrer à juste titre pour aller à l'affrontement, justement, pour aller aux crises de conscience, pour aller à tout ce qui constitue le monde du travail. Et la manière dont il dialogue le personnage de Lindon, qui passe son temps dans la première partie à dire « Je ne veux pas entendre ça, tu ne peux pas dire ça, ça c'est non, ça c'est immédiatement non », interrompant constamment les gens qui osent effectivement le contredire. Je trouve qu'il y a une puissance, il y a une violence. Autant les films précédents travaillaient beaucoup des plans-séquences, là ils morcellent comme si l'accidentation était nécessaire parce que le monde de toute façon du travail est brisé. Et, mauvais jeu de mots, pardon, et je trouve, alors je ne suis pas comme vous, je trouve que les scènes avec le fils sont absolument bouleversantes. La première fois, Anthony Bajon, citons-le quand même.
Oui,
ils vont le voir dans son institut psychiatrique. On sait qu'il a agressé un professeur et qu'ils passent leur temps dans une séquence anxiogène. Alors, vous avez conduit à quelle vitesse? Mais vous êtes arrêté combien de fois? Mais vous avez payé une fois, deux fois le péage? Tu veux les facturettes, mon chéri? Pourquoi? Tu les as? Ça n'apporte rien à la dramaturgie et en même temps, ça raconte énormément la perdition supplémentaire, la solitude supplémentaire du personnage. Non, mais qui n'est pas au détriment des autres. Sandrine Kiberlain est somptueuse. Non, c'est un grand film.
Et personne ne parle du bras droit de Marie Drucker, qu'on a envie tout simplement de tuer. Hein, franchement.
Qui les gratine un tout petit peu à l'image. C'est l'image vidéo,
un
elle est sale.
Monde,
le mec a des bêtes de bave comme ça autour de la langue.
C'est un très, très, très grand film.
Ah, mais c'est très, très bien.
Oui, c'est ce que je me tue à répéter à Jean-Marc. Mais
il y arrive, là, attends, il a progressé, il a monté le marque.
Un autre monde de Stéphane Brisé. Des réactions peut-être sur ce film? Oui, monsieur, bonsoir.
Je ne suis pas sûr d'aller voir Depardieu dans le Comte. En revanche, j'avais laissé Lindon très perplexe en pompier, en chef pompier, absolument insupportable et grotesque. Dans
pas le même.
Là, effectivement, je l'ai retrouvé tout à fait remarquable. Vous avez totalement raison. Kiberlain, je trouve qu'elle pleure très très bien. Elle est absolument étonnante. Et je suis d'accord avec vous, la faiblesse, c'est le rapport avec l'enfant. Je ne suis pas d'accord avec le Herpeur quand il dit que la scène, on n'y croit pas, la scène des chiffres, bref. Cela dit, c'est un très très bon Brisé, allez-y.
Merci pour votre intervention. Ils sont vivants, le premier film comme réalisateur de l'acteur Jérémy El Khaïm. Le film s'ouvre à Calais par l'enterrement d'un policier. Sa femme, Béatrice, c'est Marina Foïs. Aide-soignante à l'hôpital, se retrouve seule avec son grand-fils et sa mère, tout près de la jungle. Béatrice, d'ailleurs, se méfie des migrants et quand elle ne s'en méfie pas, les collègues de son mari, qui les considèrent comme des envahisseurs, lui conseillent de ne pas les approcher. Elle va pourtant recueillir chez elle l'un d'entre eux, Mokhtar, joué par Sir Kohi, un enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe et qui cherche à gagner l'Angleterre. Leur relation va provoquer évidemment la colère de Béatrice, mais aussi du quartier, des flics. Mais elle tient bon, malgré la menace d'être condamnée, je cite, pour aide au passage illégal en bande organisée. Je n'en dirai pas plus, sinon que pour son premier film comme réalisateur, El Khaïm adapte le récit de Béatrice Huret, qui s'appelait « Calais, mon amour », et qui avait paru en 2017. Pierre.
Bon, eh ben, ça y est, donc je suis guéri. Je vais... non, alors voilà, simplement, de deux choses. Une, si on demande au cinéma uniquement des scénarios extrêmement généreux, inattaquables, bon, alors on peut aller voir « Ils sont vivants » de Jérémy El Khaïm, parce que ça coche absolument toutes
les... Non, mais
les...
c'est tiré d'attent, Pierre, c'est tiré d'une histoire vraie.
C'est pas parce que c'est une histoire vraie qu'elle est bonne.
Non, mais ça...
coche toutes les cases de ce qu'il faut maintenant pour faire un film généreux, politiquement magnifique, etc. Le problème, c'est que moi, je m'arrête quelquefois un petit peu à comment c'est fait, et je trouve que la peinture qu'il fait de ce milieu, enfin je veux dire, la caricature qui est faite, par exemple, de l'héroïne avant qu'elle ne rencontre le jeune homme qui est beau comme un dieu, bien sûr.
Tu crois que c'est vraiment une caricature, toi ?
Ah oui, oui, je trouve qu'ils ont, enfin, on n'a pas le droit de peindre des gens de la façon dont ils le peint. Ils sont tous affreux, moches, racistes. Enfin, c'est là. Et elle, évidemment, c'est pour permettre au personnage d'évoluer en bien. Et mais bon, encore ça, ça fait partie du scénario. Moi, pour faire vite, ce que je n'aime pas du tout dans le film, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que il y a gros plan et caméra à l'épaule tout le temps. C'est-à-dire que c'est caméra à l'épaule et gros plan, caméra à l'épaule, caméra à l'épaule, caméra là. Alors moi, je suis sorti de ce film beaucoup plus épuisé que The Batman. Je suis sorti dans un état absolument avec une migraine épouvantable. Non. Alors c'est très 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 généreux. Vous allez tous dire que c'est magnifique parce que c'est généreux.
Non, Jean-Marc, va pas prendre
c'est bien. C'est généreux, mais c'est pas bien. Voilà.
Xavier,
c'est une manière de couper l'herbe sous le pied des camarades suivants, Pierre, qui n'est pas digne de toi. Je tiens à te le dire. Je ne suis toujours pas guéri. Moi, j'aime beaucoup Ils sont vivants. Je trouve que Jérémy El Khaïm réussit vraiment son coup. Alors, le côté suspecter El Khaïm de prendre une histoire imparable, inattaquable, parce que pleine de bons sentiments, d'abord, il faut l'écrire.
Bah, en plus, c'est quand même pas lui, c'est Marina Foïs qui est à l'origine de ce projet, qui a véritablement voulu l'adapter.
Absolument.
Et qui a cherché un réalisateur. Et voilà.
Il y a infiniment plus de plans larges que de plans serrés, justement, sur la jungle de Calais.
Très, très peu.
Mais non, pas tant que ça. T'as dû dormir, ou effectivement,
ah non,
t'as dû aller chercher.
Pas.
Non, mais t'avais mal à la tête, tu t'es un peu assoupi, Pierre. Ça n'est pas grave du tout. Moi, je trouve que la fébrilité, l'intensité, le temps après lequel il faut courir, effectivement, dans leur course précipitée, pour essayer de le faire partir en Angleterre. Enfin, il y a quand même aussi toute une urgence qui est très bien reconstituée, me semble-t-il, avec une famille qui reste hostile. Il n'y a qu'elle qui évolue un tout petit peu positivement. C'est un mélo qui retient extrêmement bien le lacrymal pour vraiment travailler autre chose sur l'implication de cette femme, sur la découverte d'un monde, sur la découverte d'elle-même. Et je te trouve très sévère sur la mise en scène parce qu'elle saisit un mouvement, elle saisit effectivement quelque chose du temps qui est imparti, que je trouve extrêmement...
Et le comédien qui joue le migrant iranien est assez impressionnant. Hein.
Ah oui, outre qu'effectivement, moi je l'aurais choisi aussi dans la jungle de Calais.
Oui, enfin bon, ça c'est personnel.
Ah oui, puis il a une mâchoire.
C'est le prochain Batman.
Là pour le coup, pardon, mais elle est un peu
cousue. D'en haut,
sauter d'en bas, c'est plus dur, hein, pardon.
Mais moi, je trouve que ce que le film saisit aussi, c'est les corps. C'est vraiment l'attrait des corps. Il y a un côté charnel extrêmement sensuel et ces deux-là se rencontrent avant tout par les corps, parce qu'ils ne parlent pas. Elle ne parle pas anglais, lui, ni anglais ni français, donc il communique avec des traducteurs instantanés de téléphone, ce que je trouve assez beau. Et c'est vraiment par les corps qu'ils vont se rencontrer. Moi, je trouve qu'on va remettre quand même les curseurs ailleurs. C'est un premier film, et je trouve que pour un premier film, il s'en sort hyper bien. Le film, pour moi, échappe à l'écueil de la tartine de bons sentiments, d'une histoire comme ça, baignée de bien-pensance. Il est quand même plus âpre que ça, avec aussi des portraits de bénévoles dans la jungle qui sont pas du tout dans le sens du poil. Laetitia Doge joue une reporter
qui s'incruste chez Marina Foïs.
C'est pas du tout la bonne samaritaine à laquelle on pourrait s'attendre. Et moi je trouve qu'il y a aussi des scènes extrêmement réussies dans un petit pas décalé, c'est-à-dire que la scène d'ouverture par exemple de l'enterrement qui est assez tragicomique puisque le trou est trop petit pour le cercueil, donc ça donne lieu à une petite scène de comédie étonnante, et même des scènes de vie où il y a un repas d'anniversaire de cette Béatrice avec ses amis, il y a une histoire d'un pull qui est moche, qu'on offre, et ça donne lieu à toute une discussion dans la cuisine qui pourrait paraître complètement anodine, mais qui, je trouve, dit beaucoup
Et puis les scènes d'amour qui sont à la fois très pudiques et en même temps très
absolument,
très
donc
fortes.
Moi je trouve que c'est quand même plutôt une réussite.
Jean-Marc,
je trouve le film beaucoup plus trouble et pas si bien pensant. Je suis assez peu d'accord avec Pierre, même si le film me convainc pas complètement. J'ai quand même l'impression que le vrai sujet du film, c'est plutôt comment le réveil du désir chez un personnage féminin va tout à coup la désancrer de tout ce qui constituait son monde.
Oui.
Cela, à un moment donné, on peut même se dire qu'il y a quelque chose de presque abusif et d'irrespectueux dans la manière dont ce personnage est uniquement l'instrument de son désir. désir et de son émancipation, et finalement elle respecte assez peu son projet, son projet. Et moi, là où le film m'embarrasse, c'est que lorsque à la fin il y a des panneaux qui nous expliquent ce qui s'est passé dans la réalité dont est inspiré le film, j'ai le sentiment que ça n'est pas complètement filmé, et que ce qui le filme et le focus du film, c'est vraiment le réveil du personnage de Marina Foïs, que le personnage masculin qui est très opaque, mais c'est une opacité qui à mon avis produit plus de manque qu'un vrai mystère. C'est presque une fonction, ce personnage masculin. Donc je trouve qu'il réussit un personnage Marina Foïs, mais il y a plein de zones d'ombre dans le film qui pour moi ont abouti à une sorte de frustration et qui fait que le film ne semble pas tout à fait abouti.
Ils sont vivants, Jérémy Elkaïm, il faut un peu accélérer si on veut encore évoquer du film. Pas de réaction sur ce film. Belfast du prolifique Kenneth Branagh, puisque Mort sur le Nil est sorti il y a quelques deux semaines. On ne présente plus l'acteur et réalisateur salué à ses débuts pour ses adaptations de Shakespeare, dont un très bon Henri V. Beaucoup de bruit pour rien, Hamlet, boudé quand il est devenu le mercenaire hollywoodien de Disney, qui revient aujourd'hui à ses origines irlandaises, c'est-à-dire à ce Belfast où il est né en 1960, un film autobiographique en noir et blanc, où l'on voit le petit Buddy, 9 ans, qui est joué par Jude Hill, partir pour l'Angleterre avec ses parents en 69, en plein conflit nord-irlandais qui oppose, vous le savez, les catholiques aux protestants. C'est d'ailleurs la scène d'ouverture du film, tournée, si j'ose dire, à hauteur d'enfant, avec une mention spéciale pour les grands-parents, incarnés par Ciarán Hinds et la grande Judi Dench. Xavier.
Ça y est, je redeviens méchant. Que c'est pas bon. Que c'est embarrassant avec un sujet pareil, quand même, parce que Belfast, c'est quand même pas rien, c'est quand même un conflit, c'est quand même un conflit fratricide. Il y a des morts, il y a des attentats, il y a des explosions, il y a des gens qui sont obligés de quitter effectivement la ville où ils sont nés. Et tout ça est filmé comme une magnifique comédie musicale dans un décor unique avec des drones du noir et blanc. J'ai toujours l'impression qu'ils vont chanter. C'est terrible. C'est-à-dire que régulièrement dans la mise en scène,
c'est
merde,
pas faux.
Il a pas eu les droits de la chanson, il a pas pu la mettre. Alors il y a toujours du joli, même dans les drames, même quand les magasins sont saccagés. Et ben le petit garçon, il vole quelque chose, et puis il va l'apporter à sa maman, et puis sa maman lui dit oh mais c'est pas bien du tout ça, faut pas voler, allez viens avec moi, je repars avec le. Non mais c'est consternant. C'est, je ne sais pas à qui il a voulu rendre hommage, à ses souvenirs ou à sa ville d'enfance, mais dans les deux cas, je veux dire, à sa mère, mais je veux dire, il y a des procès, quoi. Ne vous laissez pas honorer comme ça ou déshonorer comme ça par Kenneth Branagh. Non, au secours.
Pierre.
Non, mais là aussi, on l'avait perdu.
Ah non, alors, si tu me démontes le Elkaïm et que tu me défends.
Ah oui, alors vraiment, alors oui, non, non, je préfère. Oui, non. Écoute, excuse-moi, il y a aussi une espèce de. Le plaisir qu'on peut éprouver dans une salle de cinéma, ça compte aussi. Un peu. Moi, j'ai un grand souvenir de Kenneth Branagh. Moi, toi, c'est même pas Henri V, c'est beaucoup de bruit pour rien.
Ah oui, qui était
je
trouvais à Cannes,
absolument, moi, formidable. Mais il fait ça, Branagh. C'est-à-dire qu'il prend Shakespeare et il le transpose dans Peine d'amour perdue pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a Hitler qui menace et tout le monde danse du Gershwin et du colporteur. C'est ça qu'il aime faire et ses souvenirs de Belfast, il les fait. En effet, à hauteur d'enfant, et en effet, on danse, on a envie, ils ont envie de danser entre deux crises et entre deux. C'est ça qu'il veut faire. On peut trouver ça totalement détestable, et ce n'est pas un grand Kenneth Branagh. Si tu me diras qu'il n'y en a jamais eu, moi je trouve que oui.
Pas beaucoup.
Mais c'est pas aussi catastrophique que Xavier vient de le dire.
Charlotte.
Bah, c'est un numéro d'équilibriste assez intenable, je trouve. C'est-à-dire montrer à la fois des souvenirs nostalgiques, la douceur de l'enfance et l'extrême violence du contexte de l'époque. C'est vrai que la guerre civile irlandaise, on l'a beaucoup vue au cinéma, mais avec des films beaucoup plus noirs, âpres et réalistes. Et là, c'est comme s'il enjolivait toute son enfance à ce moment-là. Mais moi, je suis un peu entre vous deux. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même un très beau portrait de sa mère, notamment. Et les grands-parents sont craquants. Mais c'est vrai que tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Donc, il y a une sorte de visite d'une mythologie familiale assez positive.
D'autant qu'on ne voit pas tellement la raison d'être du noir et blanc, enfin c'est
non, c'est mais après quand même le film ne prend pas parti enfin, sur
oui, cette idée que le noir et blanc c'est le passé, enfin c'est pas possible quoi, enfin c'est et non moi je trouve le film
Jean-Marc qui adore en général le cinéma britannique, je dirais la vérité.
Non, ce film là est vraiment consternant. Je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit de négatif sur le film. J'ai rajouté juste une chose, c'est qu'il y a quelque chose de terriblement gênant à voir un cinéaste s'extasier sur l'enfant qu'il a été, et je pense que
sur le cinéaste qui m'est devenu en plus.
C'est vrai. Et vraiment, cet acteur enfant, c'est peut-être l'acteur enfant le plus mal dirigé que j'ai vu, mais depuis toujours, quoi. Je trouve que la manière dont il cabotine de manière effrénée, la complaisance avec le cinéaste le laisse faire, c'est horrible.
Belfast de Kenneth Branagh, pas de réaction, j'imagine. Et on termine avec Viens, je t'emmène.
Je crois qu'il y a une réaction.
Alors, pardon. Je vais vous demander simplement. Bonsoir, de vous exprimer relativement vite parce que
excusez-moi. Oui, très rapidement. Je vous trouve un peu sévère. Ce film est moins mauvais que vous ne le dites, et il y a quand même des séquences qui sont assez émouvantes. Je pense au grand-père, le rôle du grand-père. Ciaran Hinds est un très très grand comédien. Je regarde Xavier et on se souvient de lui dans la série Rome où il est un Jules César remarquable. Et je pense que ce film mérite quand même le déplacement. En tout cas, je ne le déconseillerais pas.
Voilà. Merci. Et on termine, je le disais, assez vite avec Viens, je t'emmène d'Alain Guiraudy, le réalisateur de L'inconnu du lac. Juste avant la fête de Noël, Clermont-Ferrand a peur. Un attentat terroriste vient de frapper la ville. Et c'est dans ce climat anxiogène que le jeune Médéric, qui est joué par Jean-Charles Cliché, tombe amoureux d'une prostituée plus âgée, Isadora, qui est jouée par Noémie Lvovsky. Ajoutez que Selim, un jeune SDF, qui est Ilyes Kadri, va se réfugier dans l'immeuble de Médéric, lequel appelle la police et provoque une paranoïa collective, une comédie donc, mais sur des sujets évidemment très graves et d'actualité. Jean-Marc ?
Moi, j'adore le film. J'aime vraiment beaucoup Alain Guiraudy. On avait un peu perdu durant les deux précédents films le Guiraudy très drôle. C'est-à-dire que les deux précédents films étaient assez sombres. Là, il part vraiment d'un sujet, comme tu l'as dit, extrêmement anxiogène. Il montre à quel point on vit dans une société où vivre est devenu irrespirable, et le film est un trajet qui nous donne envie d'y vivre à nouveau et qui nous permet d'y respirer pleinement. Et il y a vraiment quelque chose de très beau dans la logique du film où chaque personnage est mu par un principe de curiosité vers l'autre, et alors que tous les personnages sont des représentants de communautés qui s'opposent, finalement ce que dit le film, c'est que tout le monde a quelque chose à faire avec tout le monde, et c'est le film le plus généreux, le plus inclusif qu'on puisse imaginer. Il y a des scènes, je pense que Guiraudy est un immense cinéaste aussi pour filmer la jouissance, le plaisir. Il y a des scènes de sexe qui sont vraiment extrêmement incarnées dans le film, mais très très fortes. Il y a une fantaisie, une loufoquerie, une inspiration de chaque instant. Pour moi, c'est vraiment un film magnifique.
Xavier.
Bon, ben, je vais pas répéter ce que vient de dire Jean-Marc, je suis entièrement d'accord. C'est un hommage au cunnilingus qu'on voit si rarement, ou en tout cas si mal fait, au cinéma.
Donc, ça n'est pas que sur la menace terroriste ou sur
Non, mais on peut parler menace terroriste, xénophobie, racisme ambiant et cunnilingus. Moi, j'aime bien le programme. Je trouve qu'il a une audace absolument folle. Et c'est un film qui ne va jamais à la provocation que son sujet ou sa manière, en tout cas, de les ramener. La comédie, la loufoquerie, tu l'as très bien dit, l'absurde, pourrait autoriser. Il sait toujours très très bien où est-ce qu'il va. Le scénario est remarquablement construit. Il a une manière de filmer des corps atypiques, celui de Noémie Lvovsky, celui
peut tout jouer. Hein.
Qui peut tout Maintenant, jouer, voilà. Ils sont enrobés, ils sont généreux, ils sont jouissifs, ils sont jouisseurs. Je trouve que c'est absolument merveilleux.
Pas dans l'immeuble. Hein.
Pas tous, mais il y a une polysexualité, il y a une manière de nous faire rire quand même avec un niqab. C'est quand même pas gagné sur le papier. Et il arrive à tout. Et effectivement, Jean-Marc a raison, par cette générosité, il y a une réplique dans le film à un moment où le personnage principal dit « Mais on se parle plus, à cause de ça qu'il y a des problèmes, parlons-nous » Et ben ouais, parlons-nous. Et la conciliation sera peut-être.
C'est ce que je vous dis toujours en masque. Parlons-nous, Pierre.
Bon, alors, pour être tout à fait sincère, je préfère quand il y a chez Guiraudy des échappées libres. Par exemple, dans Rester vertical, je trouvais ce film magnifique parce que justement, il y avait des moments où ça s'égarait un peu. Là, c'est construit, quoi, c'est fermé et l'absurde.
C'est surprenant tout le temps quand même.
Mais oui, ça se dérobe tout le temps.
Non, pas tellement. Et je trouve que c'est un peu, pour résumer, du Bertrand Blier. Oui, et c'est du. Mais pour moi, c'est du sous Bertrand Blier.
Et Alain Guiraudy à Bertrand Blier.
Ben oui, là, oui. Pas généralement, mais ici, oui, dans ce film-là.
Bon, on pense un peu à Blier, mais ça serait un Blier de gauche et plus inventif que Blier.
La preuve, c'est que ça existe.
Et qui jouit
Charlotte. Ils sont quand même pas nombreux, je trouve, les cinéastes qui ont à la fois un rythme et un ton qui n'appartiennent qu'à eux. Alors c'est peut-être là, moi, le point commun avec Blier, c'est qu'un film de Blier, on le reconnaît en 30 secondes, et un film de Guiraudy, c'est pareil. Avec en plus, effectivement, cette audace, vous l'avez dit, parce que en gros, c'est quand même un vaudeville, mais c'est un vaudeville dont les ingrédients sont le terrorisme islamisme, le racisme, la suspicion, la prostitution, c'est-à-dire que des ingrédients extrêmement sulfureux. Et alors Guiraudy, il joue au petit chimiste, il met un peu trois gouttes de citron trois gouttes de ça, et ça donne un film évidemment atypique, absurde, loufoque, vous l'avez dit, avec des running gags. Il y a quand même des ébats sexuels constamment interrompus pour X raisons. C'est assez drôle. Et moi, je voudrais dire un mot de Jean-Charles Cliché, parce qu'il est absolument dément. C'est-à-dire que c'est à la fois le gars un peu lambda et en même temps un peu lunaire.
Il est truffaldien, ce acteur.
Là aussi, il est complètement singulier. Et il a un début d'année, en plus, merveilleux. On l'a vu dans Les Particules élémentaires à la télé. Il est avec Christophe Honoré en ce moment au théâtre Le Ciel
dans
de Nantes,
OVNI,
dans
aussi.
OVNI, la saison 2. Donc, c'est vraiment un acteur à suivre, qu'on voit partout, et qui s'inscrit merveilleusement avec Noémie Lvovsky dans cet univers totalement barré.
Et c'est donc « Viens, je t'emmène », le nouveau film d'Alain Guiraudy. Voilà, on a le temps de faire des conseils. On va commencer évidemment avec Charlotte qui va me voler le mien, donc.
Eh bien, on parlait de Gérard Depardieu, ce grand Gérard Depardieu. Moi, mon conseil, c'est Robuste, premier film de Constance Meyer, qui met en scène une star de cinéma un peu sur le déclin, qui est bourrue, hypochondriaque et profondément seule. Et sa nouvelle garde du corps, qui est une jeune femme de 27 ans, qui fait de la lutte semi-professionnelle et qui est à la fois consciencieuse et taiseuse. Et ce sont la rencontre de ces deux solitudes qui vont se regarder, s'apprivoiser et s'enrichir de leur altérité. Alors c'est sûr que face à Depardieu, il faut quand même envoyer du bois. Et ben, Déborah Lukumuena, on l'avait évidemment découverte avec le film Divine. Et là, elle a un rôle aux antipodes de la jeune femme exubérante.
Elle résiste
et un peu
bien.
Elle est incroyable et elle résiste dans les silences, dans le regard. C'est un très beau film.
Un film dans lequel Depardieu déclare « J'en ai marre de faire le guignol et j'aimerais être mort pour qu'on me foute la paix ». Jean-Marc.
C'est ton premier film, il s'appelle « Rien à foutre ».
Oh, j'allais le conseiller,
je suis désolé.
Voilà, m'enlever tout.
Donc c'est deux cinéastes qui l'ont co-réalisé, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Le film retrace l'itinéraire d'une hôtesse de l'air qui est interprétée de manière mais vraiment éblouissante par Adèle Exarchopoulos. Et un peu comme Le Brisé, c'est un film sur la violence du monde du travail, ce qu'il est en train de devenir, la façon dont la société pousse chaque individu à la fois à être une instance d'évaluation tout en étant constamment évalué et l'espèce de dérèglement que ça produit. Le film est très beau parce qu'il y a plusieurs mouvements, il y a une très longue pause dans son deuxième tiers qui est très très belle où le personnage va se ressourcer dans sa famille. C'est un film qui réinvente le naturalisme à la française, il lui donne vraiment quelque chose de très contemporain dans la manière.
Donc, Robuste et Rien à foutre, je suis d'accord. Le conseil de Xavier.
Alors moi, c'est une fantaisie, une fable, un film totalement inclassable qui s'appelle « Sous le ciel du Koutaïssi » d'Alexandre Goberidze, pardon, film géorgien, et ça commence par l'histoire d'un homme et d'une femme qui se croisent dans une ville la nuit, et c'est un coup de foudre immédiat. Bon, jusque-là, rien de très nouveau. Sauf qu'une voix off nous dit « Mais ouais, mais il y a un petit diablotin qui se cache, peut-être dans les arbres, peut-être dans les panneaux indicateurs, peut-être dans les sens interdits, et qui, malheureusement, ne veut pas que cet amour ait lieu. Donc, demain matin, ils vont se réveiller, ils auront changé d'apparence physique et ils auront changé d'aptitude. Elle ne sera plus médecin, mais elle sera serveuse, et lui ne sera plus une star du football, elle sera incapable de taper dans un ballon. Et pourtant, ils se sont donné rendez-vous le soir même. Comment vont-ils réussir à se retrouver? Et c'est grâce à un chien qui a le football, entre autres, que le miracle aura lieu. C'est un film constamment surprenant, constamment émouvant et toujours insolite.
Et c'est géorgien.
Et c'est géorgien, Sous le ciel de Koutaïssi d'Alexandre.
Alors là, tu nous redonnes le titre. Voilà, très bien. Et enfin, le conseil de Pierre.
Alors, c'est un deuxième long métrage qui a été primé à Un certain regard d'une jeune cinéaste que je considère comme remarquable qui s'appelle Kira Kovalenko, et le film s'appelle Les Poings Desserrés.
Ah oui.
Et c'est vraiment comment une jeune femme, une jeune, peut se débarrasser de l'empreinte d'une famille qu'elle aime, en quelque sorte. Donc il y a tout. Il y a l'exil, il y a l'exil en soi-même, le machisme inconscient ou conscient des autres, et la façon dont elle va appeler au secours un frère pour essayer de s'en sortir. Je trouve que c'est un nom à retenir, Kira Kovalenko, et c'est vraiment un film tout
les
à fait remarquable.
Les
Poings Desserrés.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du masque et la plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Charlotte Lipinska, Jean-Marc Lalanne, malgré tout, Pierre Murat, Pierrot et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam.
Et ce soir, à la technique, au théâtre de l'Alliance française, il y avait, et je les remercie, Nicolas Depagraphe, Stéphane Foulon, Alex Otinois, et à la régie Jean-Yves Masson, et à la réalisation Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 17 mars. Ce sera à partir de 19h au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.